Michel, le maire de Signes dans le Var, doit être présenté dans la journée à un juge d'instruction. Il assure avoir accidentellement percuté l'élu. Et ce matin, le parquet de Toulon a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. Le maire était intervenu pour demander aux occupants du véhicule de ramasser les gravats qu'il venait de déverser illégalement sur un terrain privé de sa commune. Un phénomène assez fréquent contre lequel les élus ont souvent du mal à lutter. Les incivilités, agressions, menaces sont également nombreuses. Des conditions d'exercice difficiles d'ailleurs. La commission des lois du Sénat va lancer dans une semaine une consultation de tous les maires de France, explique Philippe Bas, son président.
La commune, c'est une petite république dans la grande, c'est là que se forge la citoyenneté dans notre pays, et donc il faut absolument que nos maires, qui généralement sont des élus respectés, bien, le soient par tout le monde, et que quand ils font appliquer la loi, eh bien, ils soient obéis. Nous allons leur demander de recenser les actes avec toute la gradation envisageable, à partir des propos menaçants, des actes d'incivilité, des refus d'obéissance, voire des atteintes physiques. La plupart du temps, tout ceci se gère par les maires sans recours à la police ou à la gendarmerie. Mais il y a dans un certain cas des plaintes qui sont déposées. Et nous voudrions savoir, quand les plaintes ne sont pas déposées, quelle est la réalité des difficultés pour leur sécurité auxquelles les maires sont confrontés. Et c'est une raison supplémentaire d'attirer l'attention de nos concitoyens sur la nécessité de respecter cette fonction qui est essentielle pour notre démocratie.
Philippe Bas chez nos confrères de France Info. Et un hommage sera rendu demain après-midi aux maire de Signes sur le parvis de la mairie. 200 pompiers luttent toujours contre l'incendie de la Blachère en Ardèche. L'impressionnant feu de forêt est désormais fixé, mais une reconnaissance aérienne est en cours pour déterminer la suite des opérations. 90 hectares ont brûlé, une enquête ouverte pour déterminer l'origine. Des inondations et des dégâts dans la Loire et la Haute-Loire. Pluie diluvienne et coulée de boue dans les rues. Hier soir, des images impressionnantes, notamment à Montbrison. Dans le secteur de Monistrol-sur-Loire, il est tombé l'équivalent de 51 jours de pluie en quelques heures. Conséquence de ces intempéries, le trafic des trains express régionaux était perturbé ce matin entre Montbrison et le Puy-en-Velay. Ce midi, plus aucun département n'est en vigilance aux orages. Des inondations, mais c'est encore la sécheresse qui domine en France. 81 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. Ils protestent contre leurs nouvelles conditions de rémunération et dénoncent une précarisation de leur poste. Les salariés de la plateforme britannique Deliveroo en grève aujourd'hui. Ils vont manifester dans plusieurs ville avec leur nouveau système. Ils sont payés en fonction de la distance parcourue. Du coup, certaines courses ne leur rapportent que 2 à 3 euros, bien en dessous de ce qu'ils touchaient auparavant. Les livreurs à domicile appellent les clients à ne pas passer commande auprès de leur enseigne aujourd'hui. Et puis une semaine après le feu vert du Conseil constitutionnel, la loi qui réforme la fonction publique, publiée au Journal officiel aujourd'hui, elle prévoit notamment un recours accru aux contractuels et un mécanisme de rupture conventionnelle, comme dans le privé. France Inter, midi passé de 5 minutes, c'est l'heure du débat de midi avec vous Nadia Dame.
Bonjour Estelle, le prochain point sur l'actualité ce sera à 13h avec le journal de Frédéric Beniada. Un mot d'abord pour commencer à Georges, Phil et Jean-Marc, auditeurs amis et attentifs de France Inter qui m'ont tous les trois dans la même journée et sans se concerter fait remarquer que j'avais tendance à abuser des locutions en fait et du coup. Mais à maxima culpa, ce reproche est tout à fait justifié. C'est vrai que ce mitraillage de du coup, c'est une marotte verbale parfaitement dispensable et crispante. Bon bah du coup, pardon, en fait. Pour autant, tiens, voilà, il y a un autre de mes tics verbaux. Pour autant, cette émission ne sera pas consacrée aux ponctuations paresseuses, même s'il faudra un jour faire un sort où c'est clair, voilà, et en même temps, et autres parasites linguistiques. Il va quand même être question de verbe dans le débat de midi. Comment les jeunes s'approprient-ils la langue française pour la maltraiter et l'anémier, selon certains, ou au contraire pour la ranimer et la nourrir? Le langage des ados, c'est peut-être un débat vieux comme le monde, mais qui est aussi très contemporain, tant il est irrigué par des problématiques actuelles. Le langage SMS, les émojis, les réseaux sociaux, c'est un débat aussi perturbé par de nombreuses fake news. On se met le seum et on s'en jaille dans le débat de midi à propos des mots des ados. Je précise que ma fille de 13 ans a lu par-dessus mon épaule ces derniers mots et fait remarquer que c'était vraiment l'archouma et que j'allais lui taper l'affiche. La gênance.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter. Et ça va être toute la difficulté d'animer un débat sur le respect de la langue française, c'est de faire attention à pas commettre une immonde faute de liaison ou un mauvais participe passé. Donc, je compte donc sur vous, amis auditeurs, et puis également sur mes invités pour me corriger. Martine Rousseau, bonjour.
Bonjour Nadia.
Vous êtes la rédactrice du blog Langue Sauce Piquante.
Co-rédactrice avec Olivier
Ouzard. Vous êtes deux. Oui, vous êtes deux. Vous avez occupé assez longtemps le poste de correctrice pour Le Monde, puis pour lemonde.fr, et vous avez également mis en place un atelier dicté avec un cas qui s'adresse à tous aujourd'hui, mais qui était à la base, il me semble, destiné aux journalistes. Est-ce parce que les journalistes eux-mêmes ont une tendance à maltraiter la langue, à abuser des tics de langage que j'évoquais à l'instant et qui ont peut-être un problème d'orthographe?
Avec mon camarade de blog, Olivier, on a vu cette idée, pas très longtemps d'ailleurs avant que je parte à la retraite, de créer cet atelier qui s'adressait en priorité aux journalistes. Jeune journaliste, assez jeune journaliste, c'était sur le site du Monde, donc une trentaine d'années. Et on s'est aperçu qu'en fait, les journalistes venaient peu. Ils sont venus au début, ça les a amusés. Et en fait, ils venaient peu. Qui venaient? Les gens qui n'avaient pas à voir avec la rédaction, les comptables, les informaticiens. Je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont mal pris la chose? En fait, notre idée, c'était de leur faire moins angliciser leur texte, parce que les mots anglais, on n'en pouvait plus.
C'est ça le problème de l'écriture des journalistes, le globish.
Principalement, ouais. Mais pas seulement. C'est-à-dire que si, par exemple, une agence de presse utilise un terme, quel qu'il soit, qui ne soit pas forcément anglais, d'ailleurs, même s'il n'est pas anglais, comme une sorte d'épidémie terrible, les journalistes des différents médias vont reprendre ce terme. Donc au moins, faites attention, leur disait-on, essayez de varier le vocabulaire, trouver des synonymes.
Par exemple, je viens d'employer les mots fake news, c'est pas bien de dire fake news?
C'est pas très bien, non. C'est pas très bien. Mais ça, malheureusement, on avait beaucoup de mal à lutter. Mais on continue à lutter dans notre blog.
La lutte va continuer avec une autre de mes invitées, Josiane Boutet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure émérite à la Sorbonne et linguiste. Avec nous également, Jean-Michel Delaconté, vous êtes... Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, essayiste et vous avez publié Notre langue française chez Fayard.
Tout à fait.
En plein dans le sujet et puis en duplex depuis Lille. Benjamin Vallier nous a rejoint. Bonjour Benjamin. Vous m'entendez, Benjamin?
Oui, vous étiez coupé, je vous entends, bonjour.
Je vous ai retrouvé, bonjour. Vous êtes plein de choses, vous êtes musicien, vous êtes enseignant et vous êtes auteur. Vous avez notamment publié Lexique ta mère, c'est une sorte de dico des ados, l'argot pour les bolos. C'est comme ça que ça a été décrit dans la presse au moment de la publication aux éditions Fortuna. C'était en 2018 et vous disiez, donc au moment de la sortie du livre, que le mot du moment dans les cours de récré, c'était « askip ». Pour à ce qui paraît. Le prof des expressions des ados, c'est que ça se démode très vite. Est-ce que c'est pas déjà has-been, et ça c'est vraiment super has-been de dire has-been, d'employer l'expression askip aujourd'hui?
Oui, c'est ça, je dirais même plutôt has-been, qui est aussi has-been, mais alors maintenant on dirait plutôt ça date.
Ça date.
Par exemple, moi, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit, qui m'avaient pas vu depuis longtemps, et qui m'ont dit tu dates. Voilà, daté, quoi, c'est vieux.
Une réaction? J'ai l'impression que vous êtes déconcerté autant que moi par ce type d'expression.
Ça date, c'est vieux. Hein.
Oui, c'est vieux. Oui.
C'est très vieux.
Oui, j'ai l'impression que c'est...
Oui, parce qu'on recycle énormément d'expressions. Il y a beaucoup d'expressions d'argot des années 70-80 qui ressurgissent aujourd'hui. Martine Rousseau, comment vous l'expliquez, ce renouvellement permanent du vocabulaire?
Par exemple, on n'invente jamais rien, hein. Même si on est très jeune, on n'invente pas grand-chose. Par exemple, bouffon, ça c'est amusant, bouffon, qui est quand même encore beaucoup utilisé. Bouffon, c'est les bouffons du Moyen-Âge.
C'est pas gentil, hein, c'est pas un compliment, bouffon.
C'est pas un compliment, mais c'est quand même très utilisé. c'est les bouffons du Moyen-Âge. Donc, effectivement, comme vous dites, on recycle.
Josiane Boutet, vous voulez réagir?
Oui, c'est exact qu'il y a du recyclage, mais s'il y avait que du recyclage, on parlerait comme au Moyen-Âge. Donc, il y a tout le temps de l'inventivité, il y a tout le temps de la nouveauté, et c'est vrai que dans notre société, enfin, c'est un petit peu nouveau quand même, cette classe des jeunes n'a pas toujours existé, c'est relativement récent, qu'on s'intéresse à eux, et qu'ils existent en tant que groupe social. Ils existaient ni au 19e siècle, ni dans toute une partie du 20e. c'est lié à l'augmentation de la scolarisation, à la démocratisation de l'université, au fait que autrefois vous étiez enfant et puis vous travailliez juste après. Maintenant, il y a tout un grand pan pendant lequel vous êtes jeune. Maintenant, vous avez le droit d'être jeune, quoi. Et donc se fabrique des manières de parler entre soi, mais ce n'est pas que du recyclage, loin de là, très très loin de là. Ils utilisent en fait tous les procédés de la langue française, qui sont des procédés classiques, normaux, pour inventer des mots nouveaux. Et ça, ça veut dire qu'ils font pas, enfin, ils contribuent, il n'y a pas que, ils contribuent au renouvellement, à la dynamique d'une langue, puisqu'une langue n'est jamais figée, puisqu'elle est parlée par des gens, elle change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le groupe des jeunes, à l'heure actuelle, est sûrement le plus novateur, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que ce groupe-là.
Jean-Michel Delacontay, le groupe des jeunes est novateur ou est-ce qu'il saccage la langue française?
Non, je dirais pas qu'il la saccage. C'est un, comme dit madame, c'est un groupe qui est, en termes de génération, qui est à peu près déterminé. Bon, cela étant, non, je dirais pas du tout qu'il la saccage. Simplement, ce sont presque des codes. Et puis ça dépend des régions de France. On parle pas, tous les jeunes, ça veut rien dire d'ailleurs. Souvent, à ma connaissance, le langage des jeunes, tel qu'on l'entend, c'est souvent, me semble-t-il, le langage des cités.
Alors ça c'est important parce qu'on va y revenir. Oui, mais certainement, quand on parle de langage des jeunes, est-ce qu'on parle de langage des cités et qu'est-ce que ça veut
c'est
dire
le sentiment que j'ai,
d'associer les deux.
C'est le sentiment que j'ai des jeunes du Nord et du Sud, ceux de Lille, ceux de Marseille, ils n'ont pas exactement le même langage, les jeunes. Pas le même accent notamment et pas les mêmes expressions non plus. J'ajouterais que sur le renouvellement, je ferais simplement remarquer que toute la littérature est un mouvement permanent de renouvellement, qu'on soit jeune ou moins jeune.
Josiane Boutet, vous avez tiqué.
Oui, non, pas du tout. Pour aller dans le même sens, par exemple, quand dans les années 70 on voit apparaître le verlan, en fait, il apparaît dans certaines villes dont la région, enfin, pas une ville, la région parisienne, enfin, il apparaît beaucoup dans la région parisienne, dans la région grenobloise, très très peu dans le sud de la France. Donc, on voit bien qu'il y a des manières, enfin, nous on le sait, c'est notre métier d'analyser ça, il y a des manières de parler qui varient en fonction de votre sexe, de votre âge, de votre catégorie sociale, et surtout de la situation. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment important, et quand on
dit c'est-à-dire de la situation.
La situation sociale dans laquelle on parle, la situation de communication. On ne parle pas, même, enfin, un jeune décité, bien cité, là, caricatural, ne parlera pas de la même manière dans son groupe de pairs, enfin de copains, à son enseignante, enfin il vaudrait mieux pas de toute façon, ou s'il est dans un entretien d'embauche.
Mais il y a une forme de souplesse du langage.
Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. On est des animaux adaptatifs, sinon on serait mort depuis très très longtemps, depuis des millions d'années, donc on est adaptable. Et les jeunes sont comme tout le monde, ils sont adaptables. Alors s'ils ne s'adaptaient pas, et si un jeune arrivait dans un entretien d'embauche en disant « Hey mec, c'est cool !» comme ça, tout simplement, il ferait l'expérience une fois, deux fois, puis c'est fini. Il ne recommencerait pas.
Comment on parle? En continuant à parler, c'est juste après Careno et Danger Mouse Woman.
Ce sera de la tchatch.
Il est midi 17, vous êtes sur France Inter, c'est le débat de midi consacré au langage des ados. L'émission est préparée par Cyril Marchand et Camille Kaufmann.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts.
Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'ai baillé fort, là j'ai pas le time pour toi. J'ai baillé fort, là tu fais trop d'efforts.
Bah ouais, j'suis pas là, c'est ballot. Dit bah ouais, c'est ballot.
Qu'est-ce qu'il dit?
En loose dé.
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 En glousé.
Mais voyons, je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Il y a air.
Il y a air.
Eh ben, c'est lorsqu'il y a un peu d'air, lorsqu'il y a une canicule.
Non.
Les yeuves ont du mal à capter le langage un peu chelou et zarbi des tessis.
Comment dit-on, regardez?
Chouffe. Chouffe.
Demain aussi.
Demain, ouais.
On peut dire je chouffe, tu chouffes, il chouffe.
Non, non, non. On dit simplement chouffe.
Ah, tu ne pourrais pas changer de vocabulaire, dis.
J'avais la belle-sœur qui s'est ferée que va. Quand je la resserre dans mes bras.
Est-ce qu'il y a des mots en ce moment qui deviennent très à la mode?
Ouais, l'ascar pour désigner un gadjo, un homme.
L'argot, ça remonte à la nuit des temps, enfin si vous voulez, le premier moment où on a littérairement de l'argot, c'est avec François Villon. Je préfère me la faire grasse et crapuleuse, sapée en guignol parmi les grosses tronches des balours de babillard.
Mais c'est pour rien, moi. Qu'est-ce qu'il dit?
J'avais la belle serre qui s'est feu des queues. J'avais la belle serre qui s'est feu des queues.
C'était un zapping assez éclectique puisqu'il incluait Jacques Dutronc et Aya Nakamura. Jean-Michel Delacontaine, quand vous entendiez chelou, chouffe, qu'est-ce que ça vous fait à l'oreille d'entendre cet argot? On se demandera tout à l'heure si l'argot d'aujourd'hui est si différent de celui d'avant, mais qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit théma, quand vous entendez théma ou chouffe? Ça vous agace profondément?
Pourquoi voulez-vous que ça m'agace? Moi, je suis un type de la banlieue. Donc, toute mon enfance et ma jeunesse étaient en banlieue. Donc, c'était un autre argot. C'est ce que je me dis, simplement. C'est un autre argot. Simplement, ça dépend où ça se passe, en fait.
Comment est-ce qu'on peut définir l'argot?
En vérité.
Alors, pour se mettre tous d'accord, comment est-ce qu'on définit l'argot? Est-ce que c'est simplement un langage et une manière de se différencier, de s'inclure dans un groupe, Martine Rousseau, Josiane Boutet? Comment est-ce qu'on le définit?
L'argot, d'abord, ce sont des mots. C'est pas un langage, hein, c'est des mots, puisque les langues, c'est pas que des mots, hein, c'est beaucoup plus que des mots. C'est des mots qui ont une fonction cryptée, c'est-à-dire que normalement, un argot, ça sert à se faire comprendre dans un groupe donné. Donc on a historiquement, effectivement, dès la Pléiade, un argot des voleurs, un argot qui va servir à pas se faire comprendre des policiers. Donc
c'est le vocabulaire du groupe.
C'est un vocabulaire de groupe, mais qui est crypté au regard de la société. C'est-à-dire que vous ne devez pas le comprendre. Ce qui est nouveau aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler l'argot des jeunes, c'est qu'ils font des choses qu'on ne faisait pas sous la Renaissance, évidemment. Par exemple, ils vont utiliser des mots des langues manouches, ils vont utiliser des mots des langues de l'immigration, hein, plus largement. Ce n'était pas le cas au XVIe siècle. On utilisait l'italien. Ils vont utiliser ces mots, par exemple, des bled man, où vous avez à la fois du bled, verlanisé, plus man, l'anglais, ce genre de choses. Donc, ils vont utiliser d'autres langues, mais les procédés restent les mêmes et ça sert normalement à ce que vous ne me compreniez pas. Dès que vous me comprenez, ça n'a plus aucun intérêt.
Benjamin Vialet, c'est si récent que ça, l'irruption de langues étrangères dans la langue française, l'arabe, le tzigane, l'anglais, c'est encore un autre domaine, mais c'est si récent que ça, c'est un phénomène si nouveau?
Ben non, je ne crois pas, comme vient de le dire à juste titre madame, ça date, je veux dire, l'inclusion de l'arabe dans la langue française, si je ne m'abuse, ça doit commencer aux croisades, après il y a la conquête arabe, la colonisation, la décolonisation, voilà, la langue française emprunte à la langue arabe, l'anglais, l'italien,
après l'italien,
et donc voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est une langue vivante qui évolue, et je voulais rebondir sur ce que disait monsieur sur le fait
Jean-Michel
que,
Delacontaine, donc.
Oui, tout à fait. Sur le fait que, à la base, c'est vrai que ça provient des cités. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que voilà, ça appartenait à des groupes pour se différencier, Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vecteurs de l'argot vont être le rap, la télé-réalité, les réseaux sociaux. Et ce qui est vraiment, à mon sens, très intéressant, c'est que le rap, qui à la base est une culture souterraine, c'est la nouvelle variété. C'est-à-dire que voilà, ça se popularise, et donc ce qui fait que ce qui fait l'essence de l'argot à la base, donc qui doit être dans un groupe défini pour se différencier, tend à devenir, à se démocratiser, et c'est ça que je trouve très intéressant.
Je vous soumets un commentaire, une réaction de Julia, précisément sur l'irruption nouvelle ou pas de l'arabe dans le langage des jeunes. Voilà ce qu'elle dit. Mes enfants, CE2 et CM1, en Haute-Savoie, n'ont de cesse de lancer des chèhs à tout bout de champ. Je suis solidaire, Julia, parce que ma fille dit Starfoula. Martine Rousseau.
Oui.
Non, mais... Des enfants qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de famille arabe et qui vont s'approprier un langage arabe. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, je pense que c'est le son aussi qui plaît.
Est-ce qu'ils savent déjà ce que ça veut dire quand ils disent Cheikh ou Starfoula, ou est-ce que c'est simplement le plaisir de la sonorité?
Moi, je pense que il y a un plaisir de la sonorité. Oui, c'est sûr. Mais l'argot, par exemple dans le rap, il y a quelque temps, je consultais le dictionnaire de la zone sur Internet, qui est très intéressant. Et il y avait, alors le mot du jour, il y a toujours un mot du jour, c'était Pookie, P-2-O-K-I-E. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, Pookie? Et en fait, vous parliez de Aya Nakamura, elle l'utilise...
C'est le titre de ses chansons.
Voilà, ça. Elle l'utilise dans un rap. Donc c'est un nom féminin qui veut dire poucave. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de l'argot, ça ne dira pas grand-chose. Poucave, c'est un mouchard. Donc il y a
une balance aussi.
Une balance, voilà. Il y a quelque chose de gitan dans cette prononciation, comme on dit, poucave, cave, le cave se rebiffe, etc.
Chourave,
oui, c'est une galouche.
Donc il y a à la fois une appropriation, du son, d'un son, et dans le cas de Pookie, quelque chose qui a un peu d'anglais. C'est-à-dire, on joue avec plein de langues et plein de sonorités.
Oui.
Jean-Michel Delaconte voulait réagir.
Je veux dire, il y avait tellement de choses à dire, mais enfin, le langage des jeunes, je crois qu'il y a, enfin, a quelque chose, par définition même, un rapport avec le ludique, avec le jeu. C'est encore un enchantement du monde. Peut-être que les jeunes abandonnent une partie d'entre eux ce type de langage lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des choses. C'est une façon de rêver le monde, l'usage de ce type de langage. Quant à l'argot, je crois qu'il y a, vous savez, l'argot, il y a eu des dictionnaires d'argot, je crois que Balzac en avait fait un. Zola, me semble-t-il. Enfin bon.
On a toujours essayé de décrypter.
Oui, tout à fait. Mais ce que je reviens,
faire de la pédagogie sur ces mots-là.
Il y a un lien, je crois, très fort qui était souligné tout à l'heure. Jusqu'alors, l'argot, globalement, c'est comme vous l'avez souligné vous-même d'ailleurs, c'est un groupe qui cherche à masquer son langage. Aujourd'hui, on dit, et là, ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est très juste, c'est un phénomène de jeunes. C'est une question de classe d'âge. Alors que jusqu'alors, c'était des groupes sociaux, généralement des malfrats, etc. Vous voyez,
pas seulement. Loupards, aussi,
des loupards,
hein. Ou des groupes professionnels.
Ou des groupes professionnels.
Le boucher même, qui était celui du boucher, soi-disant. Enfin,
c'est ça. Donc simplement pour dire, pour d'un mot revenir à ce que je disais à l'instant rapidement, il y a dans l'argot des jeunes du ludique et de l'enchantement. Il faut aussi le prendre comme ça. Mais ce n'est pas le seul problème.
Martine Rousseau ?
Oui, une petite scène à vous raconter qui se passait à un arrêt de bus dans la banlieue nord de Paris, pour tout dire dans le Val d'Oise. Et c'était, il y avait une fille et un gars, comme dans la série télé.
Un gars et une fille.
Un gars et une fille, pardon. Les messieurs d'abord.
Je suis pas une puriste, mais c'est un gars et une fille.
Et donc, ils discutaient de leur boulot chez McDo. Un McDo dans une zone industrielle un peu plus loin. Et le gars, donc, dit à sa copine, il est visiblement pas content des cadences de travail qu'on leur imposait. « Ok, c'est de la restauration rapide, dit-il, mais on n'est pas des soniques. »
Qu'est-ce que ça veut dire?
Des supersoniques.
Supersons, quoi.
D'accord. Du nom du jeu vidéo, supersonique. Oui, aussi, d'accord.
Ah, je ne connaissais pas le jeu vidéo, mais c'est sans doute à cause de ça. J'ai tout de suite pensé au supersonique, mais vous avez raison, c'est peut-être ça aussi.
Benjamin Vallier, vous êtes très bien placé pour parler du langage des jeunes, parce que vous êtes en contact permanent avec eux. Comment est-ce que vous avez procédé pour rédiger ce dico des mots, ce lexique ta mère, votre livre, L'argot des jeunes? Est-ce que vous avez été demandé à vos élèves de 4e, 5e, je sais pas, ce que ça voulait dire, se taper l'affiche, voilà, gratter, canard. J'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que ça veut dire canard, mais comment est-ce que vous avez fait?
Alors, faire son canard, c'est faire le gentillet, quoi, par rapport à une fille, par exemple.
D'accord, c'est mauviette.
C'est être un peu à ses pieds, quoi, on va dire. Par contre, je voulais rebondir. C'est vrai que à la base, l'argot est intrinsèque à un groupe. Comme monsieur le disait à juste titre, ça devient une classe d'âge.
Jean-Michel
Delacoté, et moi, j'irais même plus loin, puisque, genre, on va reprendre Aya, Akamura, je sais pas quoi, Nakamura. Désolé d'écorcher son nom. Bon, on écorche souvent
Nakamura.
Le mien, donc bon. Ouais, voilà. Bon, Pookie, j'ai d'être ça aussi, qui est quelque chose qui est extrêmement employé chez les jeunes en ce moment. Ça veut dire j'ai d'être ça. Par exemple, j'ai joué à ce jeu. Je l'ai tué. J'ai été très bon. Donc c'est quelque chose qui se démocratise aussi. Et je vois, même pour prendre l'exemple de mes parents qui ont 70 ans, qui côtoient des adolescents dans leurs voisins, ils utilisent parfois des mots des ados. Donc, j'en reviens à ce que je disais, le fait que le rap, etc., soit devenu la nouvelle variété, ça fait qu'on dépasse le cadre de la classe d'âge et même, je dirais, de la classe sociale maintenant, du coup. Et pour répondre à votre question, oui, évidemment, je suis allé puiser les mots de mon lexique dans ce que j'entendais.
À la source.
Des mots sortir de la bouche de mes élèves. Je m'intéresse beaucoup, je leur demande si je ne connais pas la définition, et puis c'est un échange qui me permet aussi de placer d'autres registres de langue avec eux, en disant, bon, ben, ce mot-là, on peut le dire comme ça, utiliser des synonymes, etc. Et moi, je me suis toujours intéressé aux cultures souterraines. Voilà, moi, j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai écouté du punk rock, j'écoute du rap. Et bon, comme j'aime bien comprendre ce que j'écoute, ben, soit le mot fait sens par rapport au contexte de la phrase, ou alors, bon, ben, comme tout à chacun, je vais faire des recherches sur Internet.
Oui, on fait tout ça, c'est vrai. Jean-Michel Delacomté, pour revenir au cœur de notre débat sur cette question, cette idée selon laquelle la langue serait appauvrie aujourd'hui par l'usage qu'en font les plus jeunes et pas les plus jeunes d'ailleurs, parce qu'on disait que nous-mêmes, vieilles personnes que nous sommes, on peut récupérer et s'approprier certaines expressions des enfants, des ados.
Je ne dis pas exactement.
La langue s'appauvrit aujourd'hui.
Oui, mais je dis pas. À cause des plus jeunes, elle s'appauvrit en général. Sur un double plan, sur le plan oral et sur un plan qu'on n'a pas abordé, qu'on n'abordera peut-être pas parce qu'on n'a pas
si
le temps.
Si, on va en parler, l'écrit, c'est important.
Bien sûr. Hein, l'écrit, bon. Donc, selon moi, je suis pas le seul à le penser, oui, il y a un appauvrissement évident, que ce soit sur le plan oral. Mais ça concerne tout le monde, c'est pas particulièrement les jeunes. Les jeunes, c'est un autre problème, puis ça dépend de quel jeune. Si vous entrez à Normal Sup, vous êtes jeune, vous n'avez pas le même problème que si vous êtes à Sarcelles, dans
Évidemment.
Une cité. Donc, voyez.
Et ça concerne aussi les politiques, c'est un point que vous soulevez.
Mais absolument.
Le verbe des politiques,
mais
aujourd'hui.
Absolument. Et ça concerne aussi, donc, du même coup, la force des mots. Bon, moi, mon sentiment, peut-être, parce que c'est mon métier d'écrire, j'ai le sentiment que, en général, globalement, les mots ont tendance à perdre une part de leur magie. D'ailleurs, ce qui veut dire, d'ailleurs, du même coup, oui, ça se voit en littérature, par exemple, une dépoétisation, si je pouvais employer ce terme un peu barbare. C'est un sentiment que j'ai. Non, soyons honnêtes. C'est une conviction que j'ai. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est une conviction que j'ai.
Alors justement, il est beaucoup question de ressenti ou de vérité purement scientifique. C'est un débat également qui porte là-dessus. Il y a des fake news, je le disais en début d'émission, qui sont alimentés notamment par des chiffres spectaculaires qui circulent beaucoup, notamment celui qui voudrait que certains jeunes ne disposeraient que de 450 mots de vocabulaire. C'est un chiffre qui s'est propagé depuis une interview qui était donnée par le linguiste Alain Matolila. C'était dans Le Monde en 2005. Et voilà, il laissait sous-entendre, sans le contextualiser et sans le vérifier, que des jeunes, que les jeunes ne disposaient que de 500 mots au maximum. Ça a été démenti déjà parce qu'on sait qu'un enfant de 2 ans a 400 mots de vocabulaire.
Oui, ça c'est... Bon, c'est un de mes collègues, Alain Bentolila est un de mes collègues, et c'est un débat qu'on a souvent eu avec lui, y compris sur des ondes, hein, comme ça. Bon, ça, c'est, j'ose dire, une fake news d'Alain Bentolila. D'abord, il faut distinguer entre le vocabulaire qu'on dit actif, c'est-à-dire celui que vous utilisez, le passif, celui que vous comprenez. Déjà, il y a une immense différence. On a plus de vocabulaire passif que vocabulaire actif. Mais de toute façon, aucun jeune qui rentrerait au CP n'aurait que 500 mots. Donc ça... Nous, notre métier, c'est de faire des enquêtes, d'avoir 200 000, 300 000 mots à étudier sur 1 000, 2 000, 3 000 heures d'enregistrement. Et on peut vraiment faire la preuve que Alain Bentolila s'est trompé. Bon, pour des raisons compliquées par ailleurs, mais il s'est trompé. Donc, nous avons la preuve que non. Par contre, qu'il y ait des différences entre des enfants qui entrent au CP quelque part X et quelque part Y, c'est exact. Et en particulier parce que un certain nombre d'enfants entrent au CP en ne maîtrisant pas complètement la langue française, tout bêtement parce que leurs parents n'étaient pas francophones. Donc ça, c'est une différence massive. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'IUFM, donc j'avais à former des enseignants. Et cette question des enfants non francophones qui arrivent à l'école, évidemment, est fondamentale. Mais pour les autres, ils sont pas très nombreux, hein, les enfants non francophones. C'est à peine 5% de la population scolaire.
Oui, c'est assez minoritaire. Comme
c'est très, très minoritaire, mais on en parle tout le temps parce que effectivement, c'est normal, hein, c'est un phénomène social important. Donc non, les enfants ont du vocabulaire. La question après, c'est qu'est-ce qu'ils en font? Le vocabulaire, c'est pas des petits machins que vous avez dans vos poches. Hein. Le vocabulaire, ça se met dans des phrases, ça se met dans des discours, ça se met dans de la communication. Et est-ce que là, tous les enfants, les jeunes, les moins jeunes après, auront les mêmes dispositions à communiquer, auront les mêmes capacité à communiquer.
L'éloquence,
alors,
c'est
ça. On peut appeler ça l'éloquence, si on veut. L'aisance. Moi, ça me gêne pas, hein, oui. Ou l'aisance à communiquer. L'aisance à s'adapter facilement. On s'adapte tous, mais plus ou moins facilement. Et l'école française, et c'est là-dessus que Blanquer, le ministre Blanquer, veut lancer la fameuse Jean-Michel épreuve Blanquer, du grand oral en 2021 au baccalauréat. L'école française a totalement négligé depuis le 19e siècle l'enseignement de l'oral. Il n'y a pas d'enseignement de l'oral à l'école française. Donc on apprend à lire, écrire, compter, lire, écrire, compter, lire, écrire, compter. Il n'y a aucun... Non, ça vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas d'enseignement de l'oral. L'oral, c'est la récitation. On ne sait pas, on n'apprend pas à débattre, on n'apprend pas du débat contradictoire, on n'apprend pas à convaincre, on n'apprend pas à informer.
Pardon, mais moi j'ai le souvenir douloureux d'exposé auquel on était soumis quand j'étais...
C'est
une manière de pratiquer l'oral aussi.
Ah non, pas du tout. Ça, c'est vraiment, c'est comme la récitation. C'est-à-dire, vous avez préparé un machin quelque part et vous allez le dire oralement. Le grand oral, ce sera pas ça, j'espère. D'ailleurs, c'est pas ce que pense Michel Blanquer. Non, l'oral, c'est, par exemple, être en situation de vous convaincre de quelque chose ou de vous persuader ou de vous faire changer d'avis. C'est ça.
Jean-Michel de la Comté?
Je serais peut-être un peu... J'ai enseigné quelques années en fac, une quinzaine d'années, dans le 93 notamment. J'ai le sentiment que les étudiants avaient une maîtrise assez approximative, globalement, il y a d'excellents étudiants naturellement, de leur langage, oralement comme à l'écrit. Et ça pose une question quand même absolument fondamentale, c'est la question de la maîtrise de sa propre parole. Et sur la question de l'éloquence, c'est une très belle idée. Moi, ça m'a enthousiasmé lorsque ça a été mis en avant. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, oui, c'est bien. Quelle est la maîtrise du raisonnement lui-même? Ça, c'est une autre question. Et donc, je crains fort que ce qu'on appelle l'éloquence, qui n'est pas du tout l'éloquence telle qu'on l'entend traditionnellement, qui est une éloquence construite, celle des avocats par exemple, éventuellement celle des hommes politiques. J'ai peur, et j'espère me tromper bien évidemment, que cette éloquence-là, cette épreuve d'éloquence, ne soit finalement qu'une épreuve essentiellement de tchatch. Je crains qu'il y ait confusion.
Ou de rhétorique, on peut leur apprendre.
Pardon, mais c'est quoi la différence entre la tchatch et l'éloquence?
L'éloquence, c'est un discours qui est très construit, avec une volonté persuasive qui tient très largement, pas seulement, mais très largement, à la composition même de votre d'un mot.
Et la tchatch, par opposition?
La tchatch, c'est beaucoup plus fluide, improvisé, spontané.
C'est bien aussi, non?
Oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est que, oui, c'est bien aussi. Oui, c'est autre chose. C'est bien, oui. C'est bien aussi, admettons. Mais c'est autre chose. Si l'on prend les grands éloquents, si je puis dire, vous prenez Bossuet, par exemple, je ne sais pas si les auditeurs le connaissent bien, ou De Gaulle, puisqu'on en parlait, un homme d'une remarquable éloquence, c'est pas de la tchatche.
D'accord, oui.
Bon, c'est une construction.
On va y revenir.
C'est même une cathédrale de mots, à la limite. La tchatche, c'est pas ça.
On va revenir sur cette question de l'éloquence et on va écouter, en attendant, quelqu'un qui a énormément de tchatche. C'est Jean-Yann qui chantait Si tu t'en irais.
Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, il y aurait quelque chose du zéro au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais de m'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais.
Vous n'en allez pas rester là, c'était Jean-Yann, si tu t'en irais, grâce à la programmation musicale du Débat de Midi qui est signé Thierry Dupin.
Le Débat du Midi, Nadia Dame, sur France Inter.
Jean-Michel Delacanté, vous disiez hors antenne, c'est pas juste, dites-le là, que vous réfréniez un peu dans ce débat-là, que vous avez finalement davantage de reproches à faire à ce débat-là, enfin à ce langage des adolescents aujourd'hui.
Pas exactement.
Moi, quand je vous lis, quand je lis certaines de vos tribunes, on a vraiment l'impression que qu'on est dans le sabotage total de la langue française, que les adolescents, que les jeunes aujourd'hui ne savent pas écrire, qu'ils ont vraiment des problèmes d'orthographe.
Mais je parle pas tellement des jeunes. Non, sabotage, c'est pas un terme que j'emploierais, vous voyez, moi je suis pas complotiste du tout, non, il n'y a aucun sabotage.
Non, mais qu'on l'abîme, que la langue française est abîmée, c'est un des termes que vous avez employé.
Vous savez, j'ai par exemple, dans le livre que vous avez cité, je crois, Notre langue française, que j'ai publié il y a un an ou deux, je cite l'exemple quand même qui est assez marquant du Club des Cinq. Le Club des Cinq.
La Bibliothèque Verte.
Oui, c'est ça, absolument, que beaucoup de gens connaissent quand même. Il y a une traduction, je crois, en 1956, me semble-t-il, j'aurais quelques exemples, on n'a pas le temps, mais enfin, une langue qui est riche dans la traduction française. C'était retraduit il y a une trentaine d'années, enfin 30 ans plus tard, je crois, au début des années 2000, mais ça a été simplifié d'une façon ahurissante. Un simple exemple. Là où il y avait du passé simple et de l'imparfait, maintenant il n'y a que du présent. Au lieu d'une phrase où il y avait 20 termes, c'est réduit à 3 termes. Je caricature à peine.
C'est une simplification, une absence de nuance et de précision.
Bah bien sûr.
Martine Rousseau, vous vouliez réagir?
Alors justement, excusez-moi de me faire une autopromotion.
Allez-y.
Dans notre livre, Retour sur l'accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française, mon camarade de blog avait justement consacré un passage à la nouvelle version du Club des Cinq. En particulier, c'était le Club des Cinq joue et gagne. Et là, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il estime que le présent donne une plus grande force à l'action. Chacun son avis là-dessus. Bon, et pour la petite histoire, mais ça c'est pour rigoler, Il estime que dans l'ancienne version, on pouvait lire « Les enfants ont lavé et rangé soigneusement toute la vaisselle du goûter » et remplacé par « Les filles avaient lavé et rangé soigneusement toute la vaisselle du goûter ». Je me suis trompée, la deuxième version était
initiale.
Voilà, autrefois c'était les filles qui faisaient la vaisselle, maintenant c'est l'ensemble des enfants. Donc là-dessus, on a gagné.
Pas mal, hein.
Sur le fond, on a gagné.
Oui, c'est un enseignement, un enseignement moral, disons.
Effectivement, le passé simple...
C'est de la morale C'est question de genre, la manière dont on parle aujourd'hui.
C'est important, mais c'est une autre question.
C'est une autre question. Alors, le passé simple, effectivement, on prend un coup au passage. Mais dans un roman qui s'adresse à des enfants et où il y a donc une action, effectivement, le passé simple, c'est vraiment typiquement le temps du roman classique. Bon, là, quand il y a une action, est-ce qu'on peut vraiment être effaré ou vraiment très, très choqué, très chagriné de voir qu'il est moins présent ou plus du tout présent dans ce genre de texte.
Je comprends très très bien votre argument, si vous me permettez de lire trois lignes.
Je vous en prie, allez-y.
Dans l'édition de 1955, je prends au hasard, il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus longues. Mais j'en prends une courte, parce que là, c'est marquant. Il était de petite taille, mais corpulent. L'œil bleu, le regard perçant, il portait une barbe en collier, comme un vieux loup de mer. Ses cheveux étaient abondants et grisonnaient. Édition 2006. Il est petit, mais plutôt bien en chair. Il a les yeux bleus et le regard vif. Sa barbe et ses cheveux commencent à grisonner. S'il n'y a pas appauvrissement, je ne vais pas dire qu'il y a enrichissement.
C'est
quand
moins
même.
Poétique, c'est sûr.
Benjamin Vallier, en duplex de Lille. Vous venez d'entendre, comme nous tous, Jean-Michel Delacanté. Il y a appauvrissement quand on entend ce qu'il vient de lire. Il y a appauvrissement.
Bah, sûrement, oui, c'est indéniable. Mais en même temps... Comme disait une de vos invitées tout à l'heure,
comment ça, c'est indéniable.
Je veux dire, rien que l'exemple que monsieur vient de lire, personne ne peut nier le fait qu'il y a un appauvrissement, il y a moins de mots.
Ouais.
Après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a appauvrissement. Je veux dire, avant, on utilisait le subjonctif imparfait qu'on n'utilise plus maintenant. Donc l'appauvrissement date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Maintenant,
donc, quand
c'est
je vous demandais appauvrissement, c'est appauvrissement ou simplification. Est-ce qu'on parle de la même chose? C'était le sens de ma question.
Je pense que ça peut être, c'est assez proche. Après, on peut aussi parler d'appauvrissement culturel. Je veux dire, il y a certains morceaux
Jean-Michel
de variété.
Jean-Michel Delacanté approuve.
Oui, c'est vrai, c'est très juste.
Il y a certains morceaux de musique de variété actuellement. Je veux dire, j'en regretterais Christophe Maé, quoi. si je peux me permettre une note d'humour.
Ça n'engage que vous.
non, mais c'est pour. D'ailleurs, je vais faire aussi un peu d'autopromotion, moi. Mon lexique ta mère. Mon lexique ta mère est vraiment axé sur l'humour. Le but de mon ouvrage, d'ailleurs c'est un peu mon fond de commerce quand je sors des livres, c'est l'humour.
Et de dédramatiser ce sujet qui est assez passionnel et assez...
Oui, tout à fait. Et puis, évidemment les jeunes savent sûrement moins s'exprimer qu'avant. Et encore, je regardais des documentaires sur ina.fr la dernière fois, des mini-reportages, des micro-trottoirs des années 70. Ils avaient rien à envier à maintenant. Hein. Donc, je pense que le « c'était mieux avant », c'est une question générationnelle aussi. Maintenant, c'est les téléphones aussi, je veux dire. Rien que la technologie fait en sorte que... Moi, quand je suis dans le métro, moi aussi j'ai un téléphone, j'ai un téléphone portable. Mais par contre, j'ai un téléphone qui date du 19e siècle, qui ne me permet pas d'aller sur Internet. C'est un choix personnel. Les gens ne communiquent plus, les gens ne se parlent plus. Évidemment qu'il y a appauvrissement, quoi.
Je vous pensais moins réac sur ces questions-là.
C'est pas être réac,
et un côté moins réac pour d'autres.
Je vous provoque, parce que Martine Rousseau, il y a ce discours qui peut paraître comme réac, qui consisterait à dire que...
Ça veut rien dire.
Que dire que le langage SMS, ça appauvrit, que les smileys, c'est bête, que... À vous deux, à vous tous, est-ce que c'est pas un peu réac d'accuser Internet et Twitter? Je vous écoute.
Quand même, parce que...
Josiane Boutet.
Oui, non, quand même. c'est vraiment une vieillerie. Enfin, il a raison, notre collègue à Lille. C'est une question de classe d'âge ou de position politique ou tout ce qu'on veut. Mais les langues évoluent.
Vous lisez Jules Verne, il vous écrit « Il fallait que je vince ». Vous dites ça à un gamin de CP, il vous dit « Il a fait une faute, le gars, hein, ça c'est pas possible, ça n'existe pas que je vince ». Bon, ça a disparu de la langue. Donc il n'a aucune raison que les éditeurs continuent d'écrire du Jules Verne à « Il fallait que je vince ». Donc le passé simple a disparu de la langue parlée, depuis très longtemps d'ailleurs. Il n'existe plus qu'à la troisième personne du singulier, les autres personnes sont terminées. Donc la langue, elle évolue. Donc soit on dit « Oh là là, quelle horreur, c'était mieux avant », à mon avis ça sert à rien. Qu'à jouer les cons d'un certain point de vue.
Ou, comme vous y
allez. Oui, ah oui, carrément. Oui, carrément, parce que vraiment, pour nous, c'est tellement des débats sempiternels, ces affaires-là. Ils existaient déjà au 18e, au 17e, voilà, ça a toujours existé. La langue s'appauvrit parce qu'on ne parle plus la même langue que celle qui est celle de notre classe d'âge. Et c'est normal. C'est les jeunes qui sont les plus jeunes, qui sont par définition ceux qui portent l'avenir de la langue, de la société, de la culture, de l'économie, de tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas dire que ça s'appauvrit, on peut dire que ça évolue. On aime l'évolution, on l'aime pas. Bon, en tant que linguiste, nous on l'aime parce que forcément, c'est d'un certain point de vue notre métier, hein, de travailler l'évolution des langues.
Martine Rousseau, on aime l'évolution.
On aime l'évolution. Bah, plus ou moins. Bon,
pas tout le monde visiblement. Hein.
Bah, non, l'évolution du climat, c'est pas terrible.
Par exemple.
Non mais on en parle toujours.
L'évolution de la langue.
Non mais attendez.
L'évolution de la langue.
Et on va vraiment Je vous en prie. Non mais
je vous coupe tout ça. Je me concentrerai juste dans un instant sur cette question des nouvelles technologies et de la manière dont ça a peut-être modelé et bousculé la langue française. Martine Rousseau.
Chacun son langage, chaque mode de communication. Communication à son langage, le téléphone SMS, le langage SMS, c'est un langage, l'argot, c'est un langage, le journal, c'est un autre langage. Il n'y a pas, comment dire, pourquoi, je dis ça, mais en fait, j'utilise jamais évidemment le langage SMS, hein, pourquoi rejeter un type de langage, non, ça me semble.
Simplement,
Jean-Michel Delacanté, MDR,
pas sérieux. Oui, attendez, excusez-moi. Une petite remarque.
Oui, je vous écoute.
Le mot réac, je ne le supporte absolument plus.
Et pourquoi ?
Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un mot qui permet de dire « Ah, c'est réac » ou « c'est vieillot ». Donc, il n'y a plus à problématiser. C'est réglé. Ce sont des méthodes insupportables.
C'est vrai. On n'est pas du tout en train de faire ici, puisqu'on en débat.
Non, j'en ai bien, mais je sais bien. Non, mais c'est un mot fréquent de dire « Ah, machin, ou machine ».
Pour disqualifier une pensée.
C'est terrible. C'est terrible. On ne peut plus penser à partir du moment où vous êtes taxé d'être réac. Ça ne veut rien dire.
Je vous provoquais évidemment, mais c'est un terme qui revient quand on débat de ces questions-là. Il y aurait des réactionnaires et des modernes.
Mais bien sûr, absolument. C'est donc un débat politique.
Depuis plusieurs siècles.
C'est un débat. Les anciens et les modernes, par exemple, des anciens, il en reste davantage dans nos mémoires que des modernes. Donc c'est pas si simple que ça. Les racines restent, les boileaux restent, les bosseux, etc. Je ne vais pas rentrer dans le discours.
Du Bellay était un moderne.
Du Bellay était un moderne, oui. Oui, mais regardez, au moment à l'âge classique, ceux qui nous restent, les grands romans, les grands dramatiques, c'était les anciens, c'était pas les modernes. Bon, bref. Quant à l'évolution, je vous rejoins, madame, parce que évidemment, c'est variable. L'évolution, comme je le disais, l'évolution du climat, moi, elle me fait. L'évolution d'une maladie mortelle, c'est de l'évolution, c'est formidable. Comme c'est de l'évolution, on applaudit. Ouais, alors là, excusez-moi, on pourrait dire beaucoup de choses. La neuve langue du régime nazi, c'était de l'évolution d'État. C'est pas terrible. Non, je veux dire, il faut faire attention à ces questions-là.
Ce sont des questions politiques.
Et le mot réac est politique, ce sont des questions politiques. Et si on aborde ça politiquement, il faut, et c'est pas l'objet de notre discussion, hein, il faut élargir le débat et surtout s'abstenir de qualificatifs réducteurs. Voilà.
Martine Rousseau.
Oui, je voulais parler très peu de temps.
Vous avez levé le doigt.
J'ai levé le doigt à l'école, maîtresse.
Oui, c'est bien. Vous êtes sage.
Trop, peut-être. Oui, je voulais parler 30 secondes du mot « balèque », hein, auquel on a consacré un billet de blog récemment. Balèque, donc je m'en bats les couilles. Ce qui m'interpelle souvent, comme on dit, c'est que ce sont les filles qui le disent.
Ah, je vous le confirme. Ça, j'en ai une à la maison, oui.
J'entends beaucoup plus les filles le dire que leurs copains.
Et qu'est-ce que ça veut dire que des filles emploient cette expression-là? C'est
balèque, intéressant.
Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai cherché des équivalents possibles en langue non plus argotique, ou disons argotique, mais qui n'en a pas l'air. Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, si elle disait « je m'emballe millefeuille » Vous voyez, le millefeuille, c'est un vieux mot pour sexe. Ou « je m'emballe abricot ». Ou « je m'emballe abricot ».
J'aime beaucoup aussi.
Ou alors « je m'emballe les échalotes pour les ovaires ». Vous voyez ?
C'est plus joli.
C'est joli. Puis c'est culinaire en même temps, c'est très féminin, voilà. Mais c'est... Pourquoi s'approprier les bijoux de famille masculins pour parler de soi? Alors, parce que, en plus, elles ont leur franc-parler, donc elles pourraient très bien s'approprier leur propre sexe.
Et on dispose de mots et de vocabulaire pour pouvoir le faire. On a besoin de récupérer celui des... Benjamin Vallier, je crois que vous vouliez réagir sur « je m'emballe et je m'emballe les échalotes ». Je vous écoute.
Oui, il y a encore du chemin à faire pour l'égalité. mais je pense que c'est encore on y voit l'empreinte de la domination masculine sur la société. C'est vrai qu'on verra pas un mec dire bon je m'en bats l'arrêt ou autre chose. Donc c'est vrai que je m'en bats les couilles, c'est devenu alors je m'en bats les yuck aussi.
Il y a des variantes, ok.
Ouais. Et alors, moi, par exemple, c'est vrai que, alors, on parlait de côté réactionnaire. Hein, moi, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est néologisme, intrusion de langue étrangère dans notre langue, ça me dérange pas. Peut-être si l'anglicisation qui me dérange, mais bon, en même temps, tout le monde va boire un drink dans un bungalow un week-end avec son boss.
Un drink.
Mais là où je voulais en venir, je ne sais plus, je me perds.
Oui, pardon, vous avez
galéré. Oui. Et il y a d'autres choses qui vont me faire hérisser les poils des bras. Par exemple, plutôt au niveau syntaxe. J'entends beaucoup de mes élèves dire je pense, je vais aller là-bas.
Le subjonctif, ça vous dérange vraiment,
Le que a disparu.
Non, c'est le que qui a disparu. Il faut j'aille chez moi. Par exemple.
C'est encore pire. Je vais chez moi. Oui. Alors là, c'est encore pire. Mais par contre, par exemple, frère, en ce moment, sort de la bouche de tout le monde, de tous les jeunes. Frère.
Frère. Donc, pour désigner quelqu'un, frère, c'est ça?
Ouais, c'est devenu un terme générique, un peu comme nique ta mère. Quand moi je dis à mes élèves, mais tu sais que nique ta mère, ça veut dire fais l'amour à ta maman. Ce qui prend un sens. Totalement différent, mais c'est vrai que même les filles, donc j'en reviens, je m'en bats les couilles de l'exemple de madame, où même les filles entre elles se disent frères maintenant.
Jean-Michel de
la Côté. Simplement une remarque qui me fait sourire sur l'évolution, ça va très vite alors, parce que hier une jeune femme qui habite à côté de Marseille me disait que les jeunes là-bas disent même plus, enfin des jeunes, ou ses enfants en tout cas, ne disent même plus frères ou sœurs, ils disent sang. Comme le sang. On partage le même sang. Ouais, sang.
Oui. C'est intéressant, ça, non?
Oui. C'est ce que, c'est une petite remarque en passant. À quel point ça va vite?
Josiane Boutet?
Oui, c'est intéressant, tout cet échange, parce que on voit bien, comme a très rapidement dit notre collègue à Lille, que les mots, évidemment, tout à l'heure je l'avais dit, c'est l'écume de la langue. Ils changent très vite, particulièrement vite en ce moment, parce qu'il y a plein de moyens de communication qui n'existaient pas il y a 100 ans. Donc ça va très vite. C'est d'un certain point de vue pas très intéressant. C'est pas ça qui fait évoluer la langue. Ce qui va la faire évoluer, c'est des choses beaucoup plus profondes, comme effectivement, je veux tu viens, je veux que tu viennes. Et c'est pas la question du subjonctif qui est disparu depuis longtemps, mais c'est la question du que de relation, qui est très très courant. Ça, c'est en train de modifier très en profondeur la langue. Donc on peut penser que dans 100 ans, on aura un système syntaxique très différent, vraiment très différent. Là, il y a vraiment une évolution, mais ça prend des années et des années. Le temps linguistique est très long, c'est pas le temps géologique, mais presque. Je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous n'utilisez, Nadia, plus jamais le nœud de négation. Vous dites « je veux pas, je peux pas », mais c'est normal, il a quasiment disparu. Et on vient
d'un... C'est pas bien ?
Mais c'est parfait, c'est comme ça que tout le monde parle, c'est parfait. Pourquoi diriez-vous « je ne veux pas, je ne mange pas, je n'arrive pas », ce serait ridicule, complètement ridicule. Il a disparu. Mais ça a pris 7 siècles, cette disparition, pratiquement.
Martine Rousseau, un tout petit mot. Je voyais vous agiter quand on parlait du nœud, de la disparition du nœud dans ma manière de m'exprimer.
Je crois que dans le club des 5, il n'a pas disparu.
Nouvelle version. Je ne parle pas de l'écrit.
Non,
d'accord. Ah, bah oui, ça dans
l'écrit. À l'écrit, il se perdure, bien sûr.
Bon, alors je ne dis plus rien.
Non, c'est à l'oral.
On va conclure. Je signale simplement. Je signale qu'une auditrice nous a écrit à propos de la discussion sur je m'en bats les couilles. C'est une phrase très étrange. Pour dire que si, en fait, il y a des femmes qui disent je m'en bats tombe à l'œuf ou je m'emballe les ovaires.
Ah, bah, je remercie beaucoup cette dame de cette précision. Merci beaucoup, madame.
Aussi. C'était vraiment important de le signaler. Le débat de midi, c'est presque fini. J'ai encore une dernière question à poser à mes auditeurs.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est donc la question rituelle de ce mois d'août. J'aime demander autour de moi, et donc en particulier à mes invités, avec quelle personnalité, vivante ou disparue, anonyme ou célèbre, vous aimeriez pouvoir débattre, croiser le fer, discuter, Jean-Michel Delacranté.
Bah, j'ai fait, comme on l'avait, un petit peu d'autopromotion. Je viens d'écrire, je fais paraître dans quelques temps, dans quelques semaines, un livre sur la Bruyère que j'intitule « Portrait de nous-mêmes ». Donc j'aimerais bien parler à La Bruyère, savoir ce qu'il répondrait à ce que j'écris à son sujet, puisque lui-même nous parle de nous. Donc j'aimerais savoir quelle réponse il pourrait apporter aux questions qu'on peut lui poser.
Et lui faire préfacer votre livre, du coup.
Assez volontiers.
J'ai dit du coup. Josiane Voûtet.
Ah, moi je rêve depuis des années d'un grand débat public entre les académiciens de l'Académie française et les linguistes. Parce que d'un côté, on a des gens qui, pour la plupart, ne sont pas des professionnels de la langue, mais qui ont une puissance symbolique et politique extrême. Et de l'autre, des gens qui travaillent comme des forçats sur l'étude de la langue et des langues dans le monde et qui n'ont à peu près aucun impact politique ou symbolique.
Martine Rousseau, même punition, même question. Même avec qui est-ce que vous aimeriez débattre ?
Eh bien, j'aimerais bien débattre avec un camarade qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Richard Herlin, qui a été notre camarade de correction au Monde.
Qui est disparu, donc il y a quelques semaines.
Oui, qui est mort un peu jeune et qui participait parfois au blog. Et pourquoi j'aimerais bien discuter avec Richard ? Parce qu'on discutait souvent de la langue française à la terrasse des bistrots et que ça manque beaucoup.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant. Merci. Un peu fleuri. Pardon pour les jeunes. Et merci Benjamin Vallier, je vous ai oublié. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été donc en duplex depuis Lille. Le débat de midi, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, et on continue la discussion, les débats, les réactions sur Twitter et sur franceinter.fr à la page Le débat de midi.